7h30 à Yaoundé. Merci d'écouter RFI, 6h30 en temps universel. Un nouveau journal consacré à l'actualité africaine avec vous, Victor Moria, bonjour.
Bonjour Gaëtan, bonjour à toutes et à tous.
Et à la une, le retour presque providentiel de Paul Biya au Cameroun.
Oui, pour ses partisans, tout du moins, qui l'attendaient en nombre à son arrivée à l'aéroport de Yaoundé hier. Après 7 semaines d'absence et de rumeurs sur sa santé allant jusqu'au décès, le président camerounais, âgé de 91 ans, est retourné au palais de l'Unité avec l'espoir de faire cesser les allégations. L'ONG MSF suspend ses activités à Djibo, au Burkina Faso, dans cette ville cernée par les groupes armés djihadistes. Les incidents se sont multipliés ces derniers temps, rendant impossibles les actions humanitaires. Et puis en Guinée, la question autour de la candidature à la présidentielle de Mamadi Doumbouya se pose toujours. Les soutiens se multiplient et le chef de la junte reste pour l'instant silencieux. Enfin, une partie des différends au sein du Front populaire ivoirien devant la justice ce mardi. L'opposant Bougane Gaïdani placé sous mandat de dépôt au Sénégal. Et le dossier de cette édition, une mission du docteur Mukwege en Éthiopie pour réparer les femmes. Après 7 semaines hors de son pays, le Cameroun, 2 absences remarquées à New York fin septembre et en France début octobre, le président Paul Biya, 91 ans, a atterri à Yaoundé hier soir. Un retour mis en scène dans la joie et le soulagement de ses partisans qui, pourra-t-on, espère-t-on, du côté du pouvoir camerounais, faire taire le camp, dira-t-on. Car en l'absence de nouvelles sur cette longue période de leur président, le Cameroun a vu circuler les plus folles rumeurs sur la santé de Paul Biya. Correspondance Polycarpe Samba.
Il a fallu pour les Yaoundéens de découvrir au petit matin de cette journée de lundi, les rues pavoisées des affiches du chef de l'État pour se convaincre que le retour était effectivement à l'ordre du jour. Posées notamment sur les principales artères de la capitale, elles annonçaient en français et en anglais « Bon retour, monsieur le président ». Le RDPC parti au pouvoir a aussi pleinement joué sa partition, mobilisant des milliers de militants d'abord à l'aéroport international de Yaoundé, puis sur le long des 25 km de trajet du cortège présidentiel jusqu'au palais des Toudi où vit et travaille Paul Biya. La télévision nationale, la CRTV, a aussi été mise à contribution pour achever de convaincre les sceptiques avec la mission de montrer aux Camerounais que leur chef d'État était bien là. Et Paul Biya, les Camerounais l'ont bien vu dans un bref échange de 5 minutes au pied de l'avion avec son secrétaire général, le ministre d'État Ferdinand Gongo. Pas de déclaration à la foule nombreuse ayant pour le déplacement de l'aéroport, encore moins aux téléspectateurs massés derrière leurs écrans de télévision. L'armée d'éditorialistes mobilisés pour commenter ce retour qui, d'après eux, vient clore un chapitre où aucune rumeur alarmante n'a été épargnée aux Camerounais. Cela suffira-t-il pour rassurer un peuple gagné ces dernières semaines par une certaine inquiétude et angoisse sur son avenir? Les jours prochains, nous le dirons. Polycarpe Samba, Yaoundé, RFI.
Au Burkina Faso, l'ONG Médecins Sans Frontières ferme provisoirement l'une de ses missions à Djibo, une ville du nord du pays. MSF invoque une multiplication d'incidents sécuritaires dans cette ville cernée par les groupes djihadistes. Dans son communiqué publié hier, MSF affirme notamment que l'un de ses membres est décédé en septembre à Djibo. Un retrait de la ville qui témoigne de la difficulté croissante des ONG pour apporter aux populations burkinabées de l'aide humanitaire. Frédéric Gara.
Des structures médicales prises pour cible en novembre et en juillet dernier, un enfant tué par balle à un point de distribution d'eau, des installations sanitaires ou encore des points d'eau potable vandalisés ou mitraillés, les sujets de découragement et les arguments pour finalement se retirer de Djibo ne manquent pas. L'un des points d'orgue étant la mort brutale le 2 septembre de l'un des employés de MSF dans des circonstances non encore élucidées. Autant d'éléments qui poussent Médecins Sans Frontières à se retirer provisoirement de cette ville du Nord et qui témoignent de la difficulté quotidienne des ONG. ONG, internationale comme nationale, à fournir du soutien matériel, sanitaire ou alimentaire aux populations prises au piège du terrorisme au Faso. Souleymane Drabo, membre du secrétariat permanent des organisations non gouvernementales.
Il va de soi, lorsque on ne peut pas avoir accès chaque jour à nos transporteurs, il y a des difficultés parce que l'approvisionnement n'est pas régulier et compte tenu de l'insécurité aussi, il faut faire beaucoup attention. Elles souffrent, les populations souffrent, nous le savons. Et en tenant compte aussi de l'insécurité, les forces de sécurité et de défense font beaucoup de déplacements. Ils sécurisent les convois. Sans les forces de sécurité, c'est difficile. Il y a un impact qui s'ajoute sur la population. Il y a manque de denrées, il y a manque de médicaments et il y a ses conséquences aussi.
Une insécurité sur l'action et les membres des ONG qui n'épargnent aucune zone au Burkina. Le 5 septembre, à Ouagadougou, ce sont 2 employés de ACF, Action contre la faim, qui ont été portés disparus avant de réapparaître 15 jours plus tard.
Frédéric Gara.
On poursuit ce journal, Victor, avec cette question. En Guinée, le général Mamadi Doumbouya sera sera-t-il finalement candidat à la présidentielle ?
De plus en plus de mobilisations et de mouvements de soutien au président de la transition apparaissent à travers le pays, mais ces actions sont surtout portées par des membres du gouvernement ou de l'État guinéen, comme le ministre des Affaires étrangères il y a quelques semaines sur notre antenne. Le général Doumbouya, arrivé au pouvoir par un coup d'État il y a 3 ans, s'est pourtant engagé à ne pas participer à une élection, comme le stipule l'article 46 de la charte de la transition. Pour l'instant, il reste silencieux sur ses intentions, alors que la durée de la transition, elle, se prolonge. Sidi Yansané.
Après 3 mois sans conseil des ministres, ce n'est que vendredi dernier que le gouvernement s'est de nouveau réuni autour du président Mamadi Doumbouya. Le référendum constitutionnel promis avant la fin de l'année n'a pas été évoqué, alors que ni le recensement de la population, ni le fichier électoral ne sont prêts. Pourtant, les actions publiques en faveur de la junte du CNRD se multiplient dans les préfectures. Dernière en date, une marche de 5 km et un tournoi de foot à la gloire du chef de l'État à Forêt-Caria ce week-end en présence de plusieurs ministres. Ces 30 derniers jours, un autre tournoi s'est déroulé à Labé. À Zéré-Corée, le maire par intérim a créé un mouvement de soutien au président et à Cancan, les élèves ont été contraints de cesser les cours pour assister au lancement d'une alliance des femmes pour la renaissance sous Doumbouya. Si ce dernier n'a rien annoncé, son porte-parole et général Camara Amara a déclaré que le putschiste avait le droit de candidater à la fonction suprême. Au gouvernement, le porte-parole Ousmane Gawal Diallo a même affirmé dans le journal Le Monde que sa candidature, je cite, est une évidence et que les autres candidats ne pourront jamais être majoritaires.
Sidi Yansané, en Côte d'Ivoire, les dissensions au sein du Front populaire ivoirien sont devant la justice ce mardi. Le président du FPI, Pascal Affine-Guessant, doit répondre à une assignation devant le tribunal de première instance d'Abidjan. En cause, la plainte déposée par Pierre Dagbo Godé, lui-même cadre du FPI, qui demande l'annulation ou la suspension du congrès du parti prévu les 8 et 9 novembre prochains à Abidjan. Notre envoyée spéciale permanente, Binta Diagne.
Principal objet de cette audience, dire si le congrès électif prévu les 8 et 9 novembre à Yamoussoukro peut se tenir ou non. Ce congrès vise à élire le président du parti, le ou la responsable des jeunes, des femmes ou encore du comité de contrôle. Ce congrès vise surtout à désigner le candidat du FPI pour la présidentielle de 2025. Le tribunal a été saisi par Pierre Dagbo Godé, un cadre du FPI, lui-même candidat à la candidature pour la présidentielle de 2025 face à Pascal Affine-Guessant. Pierre Godé a aussi saisi la justice pour annuler plusieurs décisions prises par le comité central qu'il estime illégales. Cet avocat conteste notamment la rupture du partenariat avec le RHDP entériné au cours d'une réunion du comité central en septembre. Depuis, plusieurs militants du FPI ont ouvertement remis en question la légitimité de Pascal Affine-Guessant dans les médias. Dimanche, le parti a suspendu Pierre Godé de ses fonctions. C'est une sanction, explique Barthélémy Irénépa, le secrétaire général du FPI, car tous les actes qu'il pose n'engagent que lui. Cela n'a pas d'impact sur la marche du parti, assure ce responsable. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Bougan Gaïdani, placé sous mandat de dépôt, le leader de Gemsa Bop et membre de la coalition Samou Sakadou a été écroué par le procureur de Tambacounda en attente de sa comparution qui devrait avoir lieu le 30 octobre. La gendarmerie affirme que l'opposant a refusé de s'arrêter à un barrage malgré leurs injonctions sur une route près de Bakel dans l'est du pays, alors qu'il allait rencontrer des victimes des inondations qui ont touché la région au moment où s'y trouvait le président Diomaye Faye. Pour les soutiens de l'opposant, il s'agit d'une procédure politique. Correspondance à Dakar de Gwendal Lavina.
Le slogan « Libérer Bougan » scandé par ses partisans devant le tribunal de Tambacounda n'a rien changé. Bougan Gaïdani, l'une des figures de la nouvelle coalition d'opposition Samou Sakadou, s'est vu notifier par le procureur son mandat de dépôt et sa comparution devant le juge prévu le 30 octobre. 3 infractions sont retenues contre lui. Refus d'obtempérer, rébellion et outrage à agents de la force publique. La justice reproche à Bougan Gaïdani d'avoir forcé un barrage de gendarmes samedi près de Bakel, alors qu'il allait rencontrer des habitants de la zone sinistrée par les inondations. Pour son avocat, Maître El Hadjiouf, ses accusations ne tiennent pas et sont politiques, mais il se montre confiant.
On l'a chargé pour l'envoyer en prison, et c'est clair. Mais nous sommes optimistes, parce que le juge qui l'a jugé, Bougan Gaïdani, c'est un juge indépendant, contrairement au procureur de la République, qui, comme vous le savez, dépend de la chancellerie, donc du ministère de la Justice, qui lui-même dépend de la primature et de la présidence de la République.
Tierno Bokoum, membre de Samu Sekedou, était aussi devant le tribunal.
C'est un combat politique qu'ils sont en train de mener contre Bougan Gueydani, qui est un opposant assumé. Nous allons nous concerter, bien entendu, dans le cadre de Samu Sekedou, et nous aviserons le moment venu.
Bougan Gueydani, candidat aux législatives anticipées, sera fixé sur son sort le 30 octobre et restera en détention au moins jusqu'à cette date, soit 3 jours après le début officiel de la campagne. Gwendal Avina, Dakar, RFI.
On reste au Sénégal avec un débat proposé par le Premier ministre à son prédécesseur.
C'est le défi lancé par Ousmane Sonko, actuel chef du gouvernement, à Amadou Ba, qui a occupé ses fonctions entre septembre 2022 et mars 2024. C'était sous la présidence de Macky Sall. Amadou Ba, candidat aux législatives, tenait hier après-midi une conférence de presse lors de laquelle il a réfuté pour la première fois les accusations contre le régime de Macky Sall d'avoir précipité le pays dans une situation économique catastrophique. Quelques heures à peine après, Ousmane Sonko a publié un message où il se réjouit, je cite, qu'Amadou Ba ait décidé de sortir de l'ombre. Je lui offre donc une belle opportunité de s'expliquer devant le peuple, explique-t-il.
Et on termine ce journal avec le dossier. En Éthiopie, une équipe médicale congolaise de la fondation du docteur Mukwege, du nom du prix Nobel de la paix, cette équipe médicale est en mission au Tigré.
Objectif, former les personnels de santé et les aider à prendre en charge les victimes de viols pendant la guerre de 2020 à 2022. Elles sont estimées à plus de 120 000 dans la région où les violences sexuelles ont été utilisées comme armes de guerre. Les médecins de l'hôpital de Panzi partagent l'expérience qu'ils ont acquise dans le contexte de conflits au Nord Kivu en RDC, où de nombreuses femmes sont aussi victimes de viols. Clotilde Hazard, notre correspondante, a assisté à un de leurs ateliers.
Ce qui est très capital, une bonne...
Devant une vingtaine de professionnels de santé éthiopiens, les médecins experts de la Fondation Mukwege présentent la méthode Panzi, une méthode holistique centrée sur le ressenti et l'expérience de la victime. Marc Ombeni, psychologue clinicien responsable du pilier psychosocial de la Fondation Mukwege.
Les seuls soins médicaux n'ont pas apporté de bonnes réponses à toutes les questions de femmes. Et ensuite, on a intégré le pilier psychosocial. Lui s'occupe de vraiment travailler sur les soins psychologiques, l'accompagnement psychosocial de ces personnes qui ont été victimes de violences sexuelles et pas que, en intégrant également leur communauté, leur mari et les autres personnes qui sont affectées au niveau de la communauté.
Vient ensuite la réinsertion économique, puis l'accès à la justice. Un gros manquement en Éthiopie, selon Dominique Vidal-Plaza, responsable des soins holistiques de la Fondation Mukwege.
Ça va prendre encore des années avant que ça arrive ici. Et on reste convaincu que c'est quand même toujours le moment de documenter des cas, de rassurer qu'on a des faits qui sont documentés, qu'il y a des dossiers bien, bien précis, bien détaillés, qui pourraient par la suite donner une opportunité aux survivants d'avoir accès à la réparation. C'est quelque chose qu'on souhaiterait approfondir avec nos partenaires ici.
La Fondation Mukwege assure ensuite un suivi à distance pour s'assurer que les nouvelles pratiques enseignées sont bien mises en place par les professionnels et répondre à leurs éventuelles difficultés. Clotilde Hazard, Mekele, RFI.
Et malgré cette initiative, le gros problème des hôpitaux éthiopiens est le manque de matériel qui ralentit la prise en charge des patientes. Le docteur Abra Gebrekziaber Aïlou est le directeur des services cliniques de l'hôpital de Mekele.
Les centres de santé n'ont pas tous les moyens nécessaires pour dispenser des soins complets. Par exemple, les kits de base pour la dignité, les traitements d'urgence, les antibiotiques oraux. Parfois, nous manquons, par exemple, de médicaments anesthésiants dans la salle d'opération lorsque les patientes doivent subir des opérations gynécologiques. La réponse aux besoins est fragmentée à cause de la faiblesse de notre gouvernement dans la région, qui est une conséquence de la guerre, je pense. Les ressources diminuent, le budget alloué aux hôpitaux est inférieur à ce qu'il était avant la crise du Covid et la guerre dans le Tigré. Tous les prix ont augmenté aujourd'hui. Les professionnels de la santé du Tigré ont beaucoup souffert. Ils ont perdu des membres de leur famille et n'ont toujours pas reçu leur salaire depuis 18 mois. Beaucoup manifestent des problèmes mentaux et le niveau de soins qu'ils peuvent prodiguer s'en trouve inévitablement affecté. Il est donc nécessaire d'apporter un soutien social et psychologique aux travailleurs de la santé.
Le docteur Abra Gebrekziaber Aïlou, directeur des services cliniques de l'hôpital de Mekele, au micro de Clotilde Hazard. Clotilde Hazard qui a réalisé ce dossier, Faire face au viol, le Tigré reçoit l'aide de la Fondation Mukwege.
Et c'était le journal de Victor Moria. Merci Victor, il est 8h44 à Paris. 2 heures de moins en temps universel.